Et merci d'avoir choisi Europe 1 et midi.
Tout de suite, les gens lui ont sauté dessus, ont essayé de le maîtriser, mais il était très agité. Les stewards sont arrivés avec des menottes, ont réussi à le menotter.
Et d'abord donc cette information Europe 1 et ce témoignage d'un passager d'un vol Transavia Paris-Marrakech. Un individu a tenté d'ouvrir une porte en plein vol. Des voyageurs ont réussi à le maîtriser. On y revient, Pierre, dès le début de ce journal.
L'actualité de ce vendredi, c'est bien sûr sur les rails que ça se passe aussi. La France paralysée par une grève surprise des cheminots. Conséquence, pagaille générale sur le réseau TER.
C'est un scandale parce qu'ils ne préviennent pas les clients et on nous prend pour du bétail. On m'a dit, montre, votre train n'existe plus, a été supprimé.
Nous ferons le point au siège de la SNCF, à la gare Saint-Charles, à Marseille, et nous verrons si les cheminots sont dans leurs droits en utilisant ce droit de retrait. Dans ce journal également, l'offensive américaine sur le vin français, 25% de droits de douane dès aujourd'hui. Chez les négociants bordelais, c'est la consternation.
Monsieur Trump, il fait son boulot pour son pays. À nous de montrer que les Européens, ils sont capables aussi de peser dans les discussions.
L'actualité internationale, c'est la grève générale en Catalogne, le cessez-le-feu non respecté en Syrie, le sport avec la composition du 15 de France pour affronter le pays de Galles au Japon. Et comme c'est vendredi, toutes nos idées pour vos sorties du week-end. La tendance météo, Céline Dacosta.
Eh bien, une journée encore pluvieuse, hein, surtout pour la moitié sud, avec un ciel bien nuageux. Quelques coups de tonnerre sont possibles du Gard à la Franche-Comté, avec là des averses soutenues. Les éclaircies reviennent quand même sur la partie nord, avec toujours de bonnes rafales de vent et encore un risque d'ondées.
Merci Céline Dacosta, on vous retrouve à midi et demi, météo complète sur Europe 1.
Europe 1.
C'est donc un témoignage effarant que Pierre nous a livré en exclusivité pour Europe 1. Ce matin, il était à bord d'un avion pour Marrakech.
Oui, sur un vol Transavia au départ d'Orly. Il était 6h49 quand l'avion a décollé. Peu après le décollage, un homme a tenté d'ouvrir l'une des portes de l'appareil. C'est Pierre qui nous raconte.
15 minutes après le décollage, on a entendu d'un coup des cris et des ceintures qui se détachaient d'un coup. On s'est retourné et en fait, un passager, un déséquilibré, qui a essayé d'ouvrir la porte de la sortie de secours. Du coup, tout de suite, les gens lui ont sauté dessus, ont essayé de le maîtriser, mais il était très agité, quoi. Du coup, tout le monde s'y est mis. Les stewards sont arrivés avec des menottes, ont réussi à le menotter. Et c'était un mec qui était avec sa mère, qui était assis à côté de lui. C'était la mère qui est au bord de la sortie de secours. Et lui, il est passé par-dessus. Apparemment, il a essayé d'ouvrir la porte, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que vous avez entendu?
Il n'a rien dit. Personne, visiblement, n'a entendu crier quoi que ce soit au moment où il a essayé d'ouvrir la porte. Vu que tout le monde lui a sauté dessus, j'ai cru qu'il avait un couteau, enfin qu'il essayait d'agresser quelqu'un. Et du coup, c'était terrifiant parce que tout le monde a crié. Sur le coup, on s'est dit qu'on allait y passer et qu'il était dangereux et qu'il était peut-être armé et tout ça. Donc, on a eu très très peur. Enfin, on a vraiment cru que c'était foutu. Enfin, c'était fini, quoi. Bon, on est encore un peu sous choc. Enfin, j'en tremble encore en vous en parlant parce que voilà, c'est terrifiant. On a vu notre fin arriver, quoi.
Voilà le témoignage de Pierre, recueilli par Guillaume Biet sur une information d'Emmanuel Duteil. Pierre qui a été joint au téléphone, il était encore à l'aéroport quand on a réussi à le joindre. Voici les informations qu'on a à Europe 1, information du service police-justice. Cet individu est un franco-marocain de 34 ans, il souffre de troubles psychologiques. Il est interrogé en ce moment par la police aux frontières. Et la compagnie Transavia, eh bien, elle porte plainte et surtout elle confirme qu'on ne peut pas, hein, de toute façon, ouvrir physiquement la porte d'un avion en plein vol. Elle se veut rassurante là-dessus. Ce n'est pas possible à cause de la pression.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 3, à la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Les usagers de la SNCF, Pierre, pris au dépourvu par une grève surprise des cheminots ce matin.
Des cheminots qui entendent par cette opération coup de poing protester contre le manque de personnel de sécurité et de contrôleurs. Ils déplorent que ce mercredi, lors de l'accident du TER en Champagne-Ardenne, le conducteur a dû tout seul porter secours aux passagers car il était l'unique agent SNCF à bord.
Cet arrêt de travail sans préavis engendre une pagaille générale sur le réseau TER. Yasmine Akatou, vous êtes en direct du siège de la SNCF. A-t-on une idée précise des zones touchées?
Eh bien, écoutez, ce que l'on sait pour l'instant, le trafic des TER est fortement perturbé. Seulement un train sur quatre circule depuis ce matin en région. Dans le sud, en gare de Montpellier-Saint-Roch, des TER à destination de Narbonne dans l'Aude et des TGV à destination de Lyon étaient supprimés ce matin, tandis que de nombreux trains étaient affichés avec des retards allant de 10 minutes à 1 heure. La SNCF nous informe que le trafic est très affecté en Bretagne également, dans le nord-est et dans le Gard. Et en Ile-de-France, ça coince aussi. La circulation DER, ER, B et D est perturbée depuis ce matin. Les transiliens J et R roulent également au ralenti.
Merci Yasmina Katou en direct du siège de la SNCF pour Europe 1, illustration de cette pagaille générale à Marseille. Et Nathalie Chevance, vous êtes gare Saint-Charles où il n'y a aucun TER depuis ce matin.
Effectivement, toutes les circulations des trains express régionaux sont suspendues. Nous vous invitons à reporter votre voyage. Voilà la seule information donnée aux voyageurs. Sur les panneaux lumineux, des voyageurs très remontés, comme l'explique Dominique. Il est arrivé depuis Paris ce matin par le TGV. Il devait prendre une correspondance en TER pour Draguignan. Et le voilà coincé ici à Marseille.
C'est un scandale parce qu'ils ne préviennent pas les clients et on nous prend pour du bétail. Là, on nous a planté là et voilà, débrouillez-vous. C'est la démerde, excusez-moi du terme. On m'a dit, montre votre train. N'existe plus, a été supprimé.
Résultat, ils sont des centaines de voyageurs à patienter le long des quais. Du coup, beaucoup font le choix de prendre le bus, mais au guichet, là aussi, il faut s'armer de patience.
Bah oui, moi je vais à Toulon, donc je sais pas, je vais essayer de trouver un bus. Voilà, il y a deux guichets d'ouvert, c'est juste scandaleux. Je me demande dans quelle mesure voilà, tout ça est légal. C'est juste inadmissible.
Et pour les TGV, il faut aussi composer avec beaucoup de retard, ce qui tombe très mal avec le début des vacances scolaires, comme l'explique Sylvette.
Avec mon petit-fils, on prend le train pour aller voir la famille qui réside à Paris. Et les vacances, elles commencent mal. Ils ont envoyé un mail ce matin en disant que ça serait 1h30 de retard. Ça sera plus qu'une heure et demie de retard.
Voilà, et les gilets rouges tentent comme ils peuvent de répondre aux questions des voyageurs. Mais pour le moment, aucune information quant à une éventuelle reprise du trafic dans sa totalité.
Merci Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille en direct de la gare Saint-Charles.
On l'a vu, les cheminots exercent donc leur droit de retrait suite à l'accident survenu mercredi.
Olivier Samin, est-ce qu'en utilisant leur droit de retrait dans ce cas précis, ils sont dans leur droit ?
Eh bien, il faut se reporter au Code du travail qui subordonne l'exercice du droit de retrait à l'existence d'un danger grave et imminent pour la vie et la santé du travailleur. Est-ce le cas avec l'accident du TER mercredi en Champagne-Ardenne ? Les spécialistes du droit du travail que nous avons interrogés ce matin ne le pensent pas. Il y avait danger grave et imminent pour le conducteur du train en question dans les instants qui ont suivi l'accident. Et au passage, le conducteur, bien que blessé, n'a pas exercé son droit de retrait puisqu'il est descendu du train pour assurer la sécurité des passagers. Mais 24 heures ou 48 heures après, qui plus est dans toutes les régions de France, la thèse du danger grave et imminent paraît pour le moins ténue. Alors ce que les syndicats de cheminots disent, c'est que le mode d'exploitation à l'œuvre désormais sur les TER, qui fait qu'il n'y a plus qu'un seul agent dans le train, aboutit à une situation de risque qui peut justifier cet exercice du droit de retrait. Pas sûr que cet argument tienne en droit, notamment parce qu'il aurait fallu alors exercer le droit de retrait dès la mise en place de ce mode d'exploitation avec un seul agent, mise en place qui est déjà ancienne. Ça, c'est donc le droit, mais la situation dans les transports publics n'est jamais aussi simple et les directions de la SNCF et de la RATP ont déjà montré par le passé qu'elles maniaient avec prudence ces arguments pour ne pas enflammer les relations sociales.
Merci de ces explications. Olivier Samin.
Le social encore et toujours, Pierre, avec cette fois la suite du feuilleton de General Electric à Belfort.
Et la direction qui est prête désormais à sauver environ 300 postes sur un total de 792 suppressions au départ. Il n'empêche que GE souhaite faire appliquer l'accord de compétitivité, mais cette solution, c'est niette pour Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui l'a redit ce matin sur Europe 1. Emmanuel Duteil, la direction tente maintenant de convaincre les salariés.
Oui, selon nos informations, General Electric vient d'adresser là, à l'instant, une lettre à tous les salariés de Belfort. Dans ce courrier que l'on a pu se procurer, GE défend deux options. Le groupe américain déjà s'engage à sauver 307 emplois si un accord de compétitivité est trouvé, c'est-à-dire si les collaborateurs acceptent de travailler plus sans être payés plus. Le but, c'est de faire des économies et le chiffre est astronomique, 12 millions d'euros d'économies par an. En revanche, si aucun accord est trouvé, GE promet de sauver seulement 111 postes. Le groupe en appelle donc aux organisations syndicales. Certaines, comme la CGC, soutiennent ce plan. En revanche, le message de Philippe Martinez, patron de la CGT ce matin sur Europe 1, est limpide. Merci, mais c'est non.
Si la direction de General Electric et M. le maire, que j'ai eu à plusieurs reprises au téléphone, ne dit pas on supprime des emplois et en plus ceux qui vont rester vont travailler plus et vont souffrir plus, eh bien il y a de quoi discuter, mais on nous impose toujours une solution qui n'est pas la bonne.
Alors on a de quoi discuter si jamais on retire le plan. GE1 pourrait se passer de l'accord de la CGT pour valider son plan, mais dans l'entourage de la direction, on le reconnaît, c'est le premier syndicat sur place. Si on n'arrive pas à les embarquer, ils continueront de bloquer et ce plan donc ne servira à rien.
Merci de ces explications Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. J'apprends à l'instant que Engie vient d'être condamné à près de 9 900 000 euros pour démarchage abusif. C'est une information de la répression des fraudes. Une autre information, elle est effrayante, ça vient du côté de Montbéliard. Une fillette de 9 ans a trouvé la mort hier soir en chutant du 7e étage de son immeuble. Une autopsie doit être pratiquée. L'enquête maintenant doit vérifier plusieurs choses, notamment l'environnement de l'enfant, scolaire et familial. Mais ce qu'il y a peut-être de troublant dans cette affaire, c'est que la justice n'écarte pas l'hypothèse d'un suicide.
Il est midi 9. Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, 25% de taxes douanières américaines sur le vin français, inadmissible pour les producteurs. A tout de suite. Il est midi 12, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
C'est l'un des fleurons de l'agriculture et de la culture française, le vin, Pierre. Et pourtant, c'est aujourd'hui que les États-Unis appliquent une taxe douanière de 25% sur toutes les bouteilles qui arrivent de chez nous.
Oui, et c'est une situation bien sûr catastrophique pour les producteurs de vin, pour qui les États-Unis sont le premier marché. Rappelons ce chiffre donné par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux. 20% des exportations sont faites là-bas. Stéphane Plaz, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Ce qu'il y a de plus inquiétant encore, c'est que tout cela arrive dans un contexte plus global.
Oui, et ces nouveaux droits de douane de 25% qu'imposent les États-Unis sur les vins français entrent en vigueur dans un contexte international déjà difficile pour la filière viticole. Les professionnels du vin sont confrontés aux incertitudes liées au Brexit pour le marché britannique. La Chine connaît un ralentissement économique qui touche le vin. Vous ajoutez à cela la situation particulière de Hong Kong qui ne favorise pas les affaires et vous constatez que le tableau n'est pas terrible. C'est bien ce qui inquiète Philippe Casteja, à la tête ici dans le Bordelais d'une dizaine de domaines viticoles et d'une importante maison de négoce. Pour lui, la décision de Washington va avoir un impact immédiat et assez catastrophique sur les ventes des vins français de l'autre côté de l'Atlantique.
Pour tous les vins français d'abord, ça veut dire une augmentation des tarifs de détail de 25%. Chez nous, c'est très important. Le marché américain, c'est en gros 10-15%. Ça a été très bien pensé par les Américains. Par exemple, en matière de vin, les Italiens ne sont pas impactés. C'est certain que nous allons perdre des parts de marché. C'est une sanction qui n'a pas d'arrêt dans le temps. Monsieur Trump, il fait son boulot pour son pays. À nous de montrer que les Européens, ils sont capables aussi de peser dans les discussions.
Dans le monde du vin, vous l'aurez compris, il y a un sentiment d'injustice. Ces professionnels estiment qu'ils sont les victimes collatérales de ces taxes punitives et ils attendent donc des mesures de soutien rapides de la part du gouvernement.
Merci Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. On rappelle que les États-Unis font une exception sur les spiritueux et les vins non tranquilles, traduisez le champagne. Notons que la maison LVMH, qui a dans son giron plusieurs grandes marques de champagne, a également ouvert parallèlement une nouvelle usine de maroquinerie Louis Vuitton au Texas, ce qui a valu à Bernard Arnault les félicitations de Donald Trump.
On vous parle depuis des semaines maintenant de la privatisation de la Française des Jeux. Le compte à rebours est enfin vraiment lancé.
L'entreprise a reçu hier soir un premier feu vert des autorités boursières. Le processus d'introduction débutera formellement le 7 novembre pour une première cotation le 21. Un gros défi parce que le gouvernement veut en faire une opération tournée vers le public. En effet, 20% du capital va être réservé aux particuliers.
Alors comment les convaincre alors que la bourse fait peur? La réponse de la présidente de la Française des Jeux.
Il y aura donc une grande campagne de communication qui parlera de l'entreprise, qui permettra de savoir que c'est le moment de s'y intéresser. Et après, ils pourront, bien entendu, consulter tous les documents que l'entreprise a commencé à publier et devront s'adresser à leur intermédiaire financier. Les avantages aux particuliers sont connus puisque le ministre a dit qu'il souhaitait que les particuliers bénéficient d'une action gratuite pour 10 actions achetées s'ils les conservent 18 mois et d'une décote de 2% sur le prix d'introduction. Donc ça, c'est déjà tout à fait intéressant pour les particuliers quand on compare aux autres opérations de privatisation dans le passé. Et après, ils auront encore une fois beaucoup d'incitations à s'intéresser à l'entreprise. Et nous-mêmes, nous allons beaucoup parler de l'entreprise pour qu'ils aient le maximum d'informations.
Stéphane Palaise, la présidente de la Française des Jeux, au micro Europe 1 d'Emmanuel Dutheil.
Il est midi 15, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et c'est la grève générale, Pierre, en Catalogne.
Qui fait suite à plusieurs nuit d'émeute, les Catalans très remontés contre les sanctions prises par Madrid, contre les indépendantistes. Henri de la Guérie, vous êtes à Barcelone pour Europe 1. Comment se traduit cette grève ?
Mais écoutez, la Catalogne tourne au ralenti ce matin. L'autoroute et la nationale entre la France et l'Espagne sont coupées dans les deux sens par des indépendantistes. Une cinquantaine de vols ont été annulés. La grève est très suivie également dans les écoles. Les marchés sont fermés. Des manifestants empêchent actuellement les touristes d'entrer dans la Sagrada Familia. Par solidarité avec les indépendantistes condamnés, Montserrat a fermé sa librairie.
C'est indécent. Il faut répondre de façon politique à un problème politique. Il faut parler, il faut s'asseoir, mais on ne peut pas enfermer les gens en prison. Ça n'a aucun sens.
Des milliers de personnes qui marchent dans le calme depuis mercredi sont en train d'arriver à Barcelone pour la troisième nuit consécutive. On a donc assisté à des violences. La moitié de la Catalogne qui ne veut pas de cette séparation avec l'Espagne ne cache pas son inquiétude et son ras-le-bol. Parmi eux, Manuel Valls, il était ce matin l'invité de Mathieu Belliard sur Europe 1.
Le mouvement séparatiste est dans une impasse. Il n'y aura pas d'indépendance, il n'y aura pas d'amnistie pour ceux qui ont été condamnés. Donc ils sont dans une impasse et ils ne savent pas gérer cette situation, d'où ce qui se passe, ces grèves, ces violences et ces mouvements de plus en plus radicalisés.
Voilà, le gouvernement espagnol suit de très près la situation. Pedro Sanchez n'écarte pas la mise en place de l'état d'urgence en Catalogne.
Merci Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne, en direct de Barcelone. Des heures de discussion, une poignée de main et finalement une trêve arrachée hier soir par Washington à la Turquie. Un cessez-le-feu face aux Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Donald Trump s'en est félicité. Mais ce matin, eh bien, cet accord pose déjà question. Est-il vraiment respecté? Va-t-il tenir? Pauline Jacquot, sur le terrain, la situation est plus mouvante qu'on ne le croit.
Oui, car ce matin, déjà des échanges de tirs dans cette zone frontalière ont eu lieu. Des tirs sporadiques dans la ville de Ras Al Ain, au nord-est du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des tirs, des explosions, mais a priori pas de bombardement. Plusieurs témoins sur place disent avoir vu des nuages de fumée blanche dans le ciel syrien. Accord fragile donc, même si d'après l'ONG, rien n'a signalé pour le moment dans les autres régions près de la frontière.
Mais alors, que prévoyait ce texte, Pauline, signé par les Turcs et par les Américains?
Eh bien, une pause, 5 jours de pause. Les Kurdes doivent entre-temps quitter la zone, 120 heures pour qu'ils s'en aillent, rendre les armes et démanteler leur position. C'était l'objectif d'Ankara, de la Turquie, repousser les forces kurdes loin de cette frontière, à des dizaines de kilomètres. Un accord entre les Turcs et les Américains. Aucune intervention, en revanche, de deux pays clés dans ce dossier, la Syrie et son allié, la Russie. Comment ces deux pays vont-ils réagir? C'est la question maintenant, avant la rencontre Erdogan-Poutine, dans 5 jours, mardi, à Moscou.
Merci Pauline Jacquot.
Il est midi 18.
Europe 1.
Restez avec nous, on va tout savoir de la composition du 15 de France pour le prochain match à Tokyo. Et on va ouvrir le journal de la culture.
Il est midi 21, la suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Avec la reprise, Pierre, du Mondial de rugby, avec l'équipe de France très attendue dimanche à 9h15 contre le Pays de Galles.
Et on va tout de suite rejoindre notre journaliste en direct de Tokyo. Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Donc pas de changement, hein. On reprend cette belle équipe qui a affronté l'Argentine pour la composition.
Non, pas de surprise, effectivement. Jacques Brunel maintient sa confiance en de jeunes joueurs, à l'image du duo Dupont-Tamac, hein, 22 et 20 ans, qui seront les chefs d'orchestre du jeu français. Guirado capitaine, Médard à l'arrière, Hugé et Penaud aux ailes. Face au Pays de Galles, hein, qui a sûrement la meilleure défense du monde, les Bleus parient sur la vitesse à l'arrière, l'explosivité. Le manager Jacques Brunel, qui a d'ailleurs répété les messages positifs, oui, bien sûr, qu'on peut battre le Pays de Galles avec cette équipe.
On pense y être préparé. Et puis, on l'a vu aussi dans notamment les deux derniers matchs, il y a eu des opportunités. On a la capacité de peut-être de les mettre en difficulté quelquefois. Dans tous les cas, on va jouer notre chance à fond.
Alors, quelques légères retouches hein, sur le 15 titulaire qui sont à signaler, ceci dit. Virimi Vakatawa sera au centre, hein, lui qui est arrivé dans le groupe juste avant la Coupe du Monde et qui a finalement convaincu le staff. Présence aussi de Bernard Leroux, titulaire, lui qu'on ne voyait plus beaucoup ces dernières années, qui avait même carrément disparu de la circulation à cause des blessures notamment. Ces deux joueurs qui sont des costauds, hein, gros impact physique, et c'est ce que recherche le staff des Bleus pour faire face à l'une des meilleures nations mondiales.
Simon Rubin qui était à Tokyo avec nous sur Europe 1.
C'est l'heure du journal de la culture. Bonjour Thierry Geffrotin.
Bonjour à tous.
Allez, on va partir à Lyon pour l'ouverture de la Cité internationale de la gastronomie.
Oh, cette cité de 4000 mètres carrés est consacrée au bien manger lyonnais et aux arts de la table français. Elle est installée sur 4 niveaux dans les bâtiments les plus anciens du Grand Hôtel Dieu. Alors vous pourrez découvrir notamment le piano de cuisson, on dit le piano hein, tout simplement, sur lequel Paul Bocuse et son équipe ont travaillé pendant 25 ans. Trois autres cités vont voir le jour à Dijon, Tours et Rungis, dans la foulée du classement du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Si vous aimez l'art contemporain, évidemment, vous irez à la FIAC à Paris.
La Foire internationale d'art contemporain qui se tient jusqu'à dimanche au Grand Palais. 199 galeries venues de 29 pays y sont installées. L'occasion aussi d'acquérir des pièces de jeunes artistes, ça commence à 45 euros, et d'admirer, ou pas d'ailleurs, des œuvres qui, elles, sont hors budget.
Chacun ses goûts. Un festival de musique maintenant, classique, hein, consacré à Franz Liszt, c'est dans l'Indre.
Ah, le rêve d'amour.
C'est pour vous, Pierre. Un festival unique en France et en Europe, les Listomania, qui commence dimanche sur le thème « Les amis de Liszt ». C'est à Châteauroux qu'ont lieu les concerts et ce n'est pas un hasard. Si Franz Liszt y est célébré, Jean-Yves Clément est le directeur artistique des Listomania.
Il est passé donc par Châteauroux et il avait l'idée avec son assistante de créer un festival. Donc 150 ans après environ, j'ai été obligé de relever le gant. Liszt, c'est beaucoup plus qu'un compositeur, c'est un phénomène. Et c'est pour ça qu'on a à cœur de lui rendre justice depuis 18 ans déjà.
De la musique toujours et encore, mais dans un autre genre, sorti aujourd'hui du tout nouvel album d'Alain Souchon. I'm 50s.
I'm 50s. I'm 50s, premier album en solo depuis 11 ans. Alain Souchon se remémore les années 50, celles des films avec Jeanne Moreau ou Jean Gabin. Album intime où il est question de son cafard capillaire. Alain Souchon a fait appel à son acolyte de toujours, Laurent Voulzy, mais aussi à ses enfants. L'album est poétique, onctueux, empli de nostalgie. C'est ce que m'a soufflé notre spécialiste musique, Angèle Châtelier, qui est tombée sous le charme de cet album.
On écoute. Qui rentre à Paris. I'm 50. C'est délicieux, Thierry. Merci beaucoup.
Merci, Thierry. Merci, Pierre. Vous revenez à 13h pour un nouveau journal.
Il est midi 25.
Europe 1. Et nous, on reste ensemble sur Europe 1. Dans un instant, c'est la France Bouge Académie. L'occasion peut-être pour vous de découvrir de nouveaux talents. À tout de suite.